Europe 1.
Ondelat raconte.
Christophe Ondelat.
Savez-vous quand on a utilisé pour la première fois en France les empreintes digitales pour confondre un meurtrier? Eh bien, c'était en 1910, dans une enquête menée à Paris, une histoire qui met en scène celui qui va devenir le père de la police technique moderne, Alphonse Bertillon. Je vais vous la raconter et je la débrieferai avec Philippe Marion du Service National de Police Scientifique de Lille, auteur de deux livres dont je me suis nourri, Petite Histoire de la Police Scientifique et Technique aux éditions BOD et Police Scientifique, la véritable histoire des experts aux éditions 81. J'ai écrit cette histoire avec Nicolas Loupien, réalisation Boris Paczynski.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Ça commence un matin d'octobre 1902 à Paris, quand un élégant bourgeois fait irruption au commissariat du 8e arrondissement.
Bonjour, messieurs. Voilà, je suis le docteur Auguste Allot, chirurgien-dentiste. Et je viens vous voir parce qu'en arrivant à mon cabinet ce matin, j'ai trouvé mon domestique, Joseph Rebel, mort, étendu sur le parquet. On l'a assassiné.
Assassiné? Vous en êtes certain?
Oui. Il a un torchon autour du cou qui a dû servir à l'étrangler. Et il y a aussi des marques sur son visage, comme des griffures. Et donc oui. Je suis certain qu'il a été assassiné.
Et pourquoi donc?
Il a dû surprendre des voleurs, je pense.
Il dit que tous ses meubles et ses armoires ont été ouverts et que des choses ont disparu. Des bibelots précieux et surtout une forte somme d'argent, 1600 francs, fruit de ses consultations. Il y a une chose que je ne comprends pas, monsieur Allot, c'est ça? Que faisait votre domestique à votre cabinet? Et d'ailleurs, où se trouve-t-il, votre cabinet?
Au 157 rue Faubourg Saint-Honoré. Mon domestique travaillait en partie au cabinet, et hier soir il pleuvait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il tombait même des trombes. Et il a trouvé plus commode de dormir sur place plutôt que de rentrer à mon domicile qui est assez loin, au Batignolles, et de devoir faire le chemin en sens inverse ce matin avec tous les encombrements que nous avons à Paris. Je n'aurais pas dû le laisser dormir à mon cabinet, je m'en veux énormément, C'est un homme que j'appréciais beaucoup, voyez-vous. Beaucoup.
Deux heures plus tard, ils débarquent à quatre au cabinet du docteur Allot. Le juge d'instruction Joliot, le commissaire Cochefer, chef de la sûreté, le docteur Sauquet, médecin légiste, et le déjà célèbre Alphonse Bertillon, chef du service de l'identité judiciaire de la préfecture de police de Paris. Je dis déjà célèbre parce que il s'est déjà fait un nom avec son invention de l'anthropométrie judiciaire. Dans les enquêtes de police, ça a déjà changé beaucoup de choses. Ah oui, Bertillon est le premier à avoir compris que chez l'adulte, certaines caractéristiques du squelette sont uniques et ne changent pas. Et donc depuis, à chaque arrestation d'un suspect, il le photographie de face et de profil et prend ensuite tout un tas de mesures, 14 au total. D'abord la taille, ensuite avec un pied à coulisse, il mesure la largeur, la longueur de son visage, l'envergure des bras, les dimensions de son oreille droite, la pointure de son pied gauche, ainsi que diverses mesures du crâne. Et on obtient ainsi, grâce à lui, une sorte de carte d'identité physique de la personne. Et ça a bouleversé les enquêtes de police. Car Bertillon a établi qu'il n'existe qu'une seule chance sur 286 millions
de trouver des mesures identiques sur un autre individu. C'est une arme quasi infaillible pour détecter les récidivistes ou les évadés qui voudraient échapper à la justice. Ils ne peuvent plus mentir en disant qu'ils s'appellent Paul alors qu'ils s'appellent Robert. Pour peu, bien sûr, que les mensurations de Paul aient été relevées par Bertillon. C'est une invention révolutionnaire. Mais ses supérieurs lui ont demandé d'aller plus loin. Ils lui ont demandé d'ajouter à ses fiches anthropométriques des empreintes de doigts de la personne, prises avec de l'encre. L'empreinte des quatre doigts de la main droite et depuis 1900, celle de l'index gauche. Ils ont pensé qu'en cas d'absence de toute description physique, il était théoriquement possible de confondre un suspect en comparant ses empreintes avec des traces relevées sur la scène de crime. Mais vous savez, je connais bien Bertillon. Il n'est pas très convaincu par cette méthode des empreintes. Et il pense que sa méthode anthropométrique est bien supérieure. Et, d'ailleurs, à ce jour, rien n'est venu le faire changer d'avis. Hein. Personne n'a jamais été arrêté grâce à des empreintes digitales. Eh bien, c'est cette affaire de domestique retrouvé mort au cabinet du docteur Allot qui va le faire changer d'avis. Revenons dans le cabinet du dentiste où le juge, le chef de la sûreté, le légiste et Alphonse Bertillon viennent d'arriver. Le cadavre du domestique, Joseph Rebel, repose dans l'antichambre du cabinet, sur le sol, en position semi-assise, le dos contre une chaise renversée, les yeux ouverts et une serviette nouée autour du cou, avec laquelle il a effectivement été étranglé. Et c'est là que Bertillon passe à l'action. «
Vous ne touchez à rien. Écartez-vous du cadavre. »
Et là, il sort un énorme appareil photo et il commence par immortaliser la scène de crime.
« Bertillon ! Bertillon, venez voir ici, je vous prie. »
C'est le juge Joliot qui vient de l'appeler. Il est devant l'un des meubles fracturés, une vitrine, et il tient à la main un morceau de verre.
« Bertillon ! Vous pensez qu'on peut tirer quelque chose de ça ? »
Bertillon se penche dessus.
« Il y a dessus des empreintes de doigts, monsieur le juge. Et je dois dire que ce sont les plus nettes que je n'ai jamais vues. Vous voyez, un pouce sur un côté de la vitre et les trois autres doigts sur l'autre face. »
« Et vous pensez que vous pouvez en tirer quelque chose, Bertillon ? » ?»«
Possiblement. » Car il s'agit de doigts de la main droite, et par chance, ce sont les seuls qui sont répertoriés dans mes fiches.
Et donc Bertillon rapporte le morceau dans son service de l'identité judiciaire de la préfecture. Et en posant le verre sur un fond noir, il prend une photo des quatre traces de doigts. Et il va les comparer avec les empreintes qui figurent sur les fiches depuis des années. Et il y a une fiche qui colle.
J'ai compté les sillons, j'ai comparé les arêtes de sillons et les sillons bifurqués. Il s'agit sans aucun doute d'un certain Henri Léon Schaeffer. Et je dois vous dire par ailleurs que les caractéristiques anthropométriques de cet homme correspondent point par point à la description faite par les témoins qui disent l'avoir vu dans le quartier.
Et l'enquête révèle que ce Schaeffer était un ami intime du domestique Joseph Rebel. Henri Léon Schaeffer est arrêté à Marseille fin octobre et rapatrié à Paris. Et devant le juge,
Il se déballonne tout de suite. Eh ben oui. Oui, l'assassin de rebelle, c'est moi. Vous êtes content? Enfin, quant au vol, vous vous trompez. Je n'ai presque rien emporté. Et maintenant, en voilà assez. Je ne dirai plus rien. Mais plus tard, sur les conseils de son avocat, il évolue un peu. C'est une bagarre qui a mal tourné. Rien de plus, je vous jure. Il restera sur cette position jusqu'au verdict de son procès. Ce que l'enquête révèle après, c'est que le domestique et lui étaient à la colle, de la jaquette, homosexuel, et que Schaeffer a sans doute proposé à son amant de monter un coup. On cambriole le cabinet, je te ligote sur place, et demain, quand le docteur Allo arrive, tu n'as qu'à dire que tu as été saucissonné par le voleur. Et nous, on se partage le butin. Mais Rebel n'a manifestement pas voulu voler son patron. Alors ils ont probablement fini par se battre et Schaeffer a étranglé Rebel et emporté le butin avec lui. Mais ça, c'est ce que dit l'enquête. Pas Schaeffer. Schaeffer continue de nier le crime. C'était un accident. Le procès s'ouvre le 13 mars 1903. Et Alphonse Bertillon y témoigne en tant qu'expert. C'est une première. Vous devez savoir que les empreintes digitales sont différentes pour chaque être humain. Alors je ne dis pas que Schaeffer a tué, mais je dis qu'il était présent et que c'est lui qui a touché la vitre. Et si je me trompe, je m'engage à payer 1000 francs d'indemnité. Interrogé, Schaeffer maintient que c'était un accident, pas un assassinat. Enfin, c'est Rebel qui m'a proposé le coup, mais il voulait tout garder pour lui. Alors je l'ai saisi à la gorge, et comme j'étais plus fort, eh bien, je l'ai renversé. Et puis je l'ai ligoté, je l'ai bâillonné, je voulais pas le tuer. Mais quand je me suis aperçu qu'il s'étouffait, eh bien, c'était trop tard. Ça n'empêche pas l'avocat général de réclamer le lendemain la peine de mort. Y a-t-il une cause d'atténuation dans l'indignité même de la victime? Non, bien sûr. À ce compte, on ne devrait pas punir les assassins de filles galantes. Schaeffer a assassiné pour voler. Il n'y a pas plus vil, il n'y a pas plus indigne. Et la peine supérieure est le seul châtiment qui puisse arrêter de pareils misérables. Et Schaeffer, identifié pour la première fois grâce aux empreintes digitales, est condamné pour meurtre aux travaux forcés à perpétuité. Et dans la foulée, le journal l'aura hors titre « Assassin, portez des gants ».
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.